Genève. Côté. Nature.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Cité 92.2 FM. Comme chaque mardi, c'est moi, Virginia, qui vous accueille à 19h pour vous présenter votre émission hebdomadaire écolo, Genève côté nature. Et je ne suis pas seule, je suis avec ma sœur Émilie.
Bonjour, nous sommes les fondatrices de l'association Nariès qui travaille pour la protection de la biodiversité et des milieux naturels. Nous avons nos locaux sur Chênebourg, mais nous bougeons un peu partout dans le canton pour étudier des populations d'amphibiens, pour guider des gens lors de balades nature ou pour vous emmener, chers auditeurs, en vadrouille une fois par mois.
Et oui, nous sommes donc aujourd'hui dans un nouveau côté vadrouille et nous avons de la chance, il fait beau. Nous allons donc profiter de nous promener sous un beau ciel bleu.
Pour démarrer la vadrouille du jour, nous vous donnons rendez-vous entre Confignon et Perly sur la commune de Bernay. Nous allons commencer sur le pont de Lully. Sous nos pieds, nous avons la rivière de l'Aire qui nous vient de Haute-Savoie, plus précisément du pied du Salève. Elle ne prend le nom de l'Aire qu'à Saint-Julien en Genevois parce qu'avant, elle consiste en une multitude de petits affluents.
Sur Suisse, elle a d'abord été canalisée, puis renaturée. Les travaux se sont terminés en juin 2016 et ont été récompensés par le prix du paysage du Conseil de l'Europe en 2019. Elle est à plusieurs endroits souterraines, cette aire. En entrant dans Genève, elle réceptionne les eaux de la Drise, puis elle se jette dans l'Arve à la hauteur du pont de Saint-Georges.
Au cours de son évolution, l'Aire a connu de gros problèmes de pollution parce que sa canalisation lui faisait accumuler les pesticides et les eaux usées. Encore aujourd'hui, en été, la qualité de ses eaux est plutôt médiocre.
On sait maintenant ce qui coule sous nos pieds, alors parlons un peu de ce qui est en surface. On l'a dit, nous sommes sur le pont de Lully. C'est le deuxième pont le plus en amont de l'Aire depuis son entrée en Suisse. Il porte le nom du village qu'on voit sur sa rive gauche. Ce pont a été reconstruit pendant les travaux de renaturation de la rivière en 2007. Il a été réalisé en parallèle à la passerelle qui se trouve à la hauteur de Certoux et qui est réservée aux piétons et aux cycles.
Alors pour commencer, depuis ce pont, on va donc aller dans la direction du village de Lully et on va prendre un petit chemin qui se trouve sur notre droite et qui va nous amener à côté de l'eau.
Déjà ici, on peut voir quelques oiseaux, quelques passereaux. Donc les passereaux, ce sont les petits oiseaux qui se perchent. Ils ont des pattes allongées avec des griffes et ils peuvent se percher sur les branches. Donc là, on a vu une mésange charbonnière. C'est ce petit passereau avec une calotte noire, un poitrail jaune qui a une ligne qu'on appelle une cravate, une ligne noire qui est plus épaisse chez les mâles que chez les femelles. La mésange charbonnière, elle fait un petit titu, titu, titu en guise de chant.
On a aussi vu traverser un petit merle qui marchait sur le chemin. Il n'était pas en vol. Alors c'était un mâle puisqu'il était noir avec le bec jaune. Les femelles sont plutôt brunes, beaucoup plus ternes. Donc là, c'était un joli petit mâle et il était certainement en train de chasser puisqu'il était au sol.
Oui, on voit souvent les merles fouiller les feuilles mortes au pied des arbres pour essayer de trouver quelques petits insectes ou autres invertébrés à se mettre sous le bec.
Donc en passant sur le petit chemin qu'on vous a décrit juste avant, on fait une sorte d'épingle à cheveux et on va passer sous le pont de Lully justement. Alors on n'est pas tout de suite là à côté de la rivière, on a un petit monticule de terre sur notre gauche qui nous sépare de l'eau, mais on va continuer et on va rejoindre l'eau. N'hésitez pas ici à profiter d'un rayon de soleil comme aujourd'hui pour vous poser sur les grandes pierres pour vous réchauffer un peu.
Dans les arbres autour, donc on voit encore un autre merle qui est au sol. On voit évidemment des petits moineaux, hein, ces passereaux qui sont parmi les plus communs de nos villes, qui ont su très bien s'adapter à la vie urbaine, mais qui malgré tout sont aussi en diminution à cause de la pollution et du manque de nourriture. On voit aussi, donc on a plein d'oiseaux aujourd'hui, on voit aussi un pinson des arbres. Alors le pinson des arbres, il est un peu roux-gris, avec le gris qui des fois semble bleu, avec une tache blanche sur l'aile. Il est vraiment reconnaissable de loin parce que sa tache blanche, on la voit vraiment très bien. Et on le voit aussi souvent comme le merle au sol, en train de chercher à manger.
Donc là, on continue à marcher, on quitte un petit peu la route de Lully qui est derrière nous. on va dans le sens contraire de l'eau et on arrive dans une zone un petit peu ouverte où il y a aussi des bancs en bois et un banc en béton sur lequel on peut s'asseoir pour regarder le cours de la rivière. Et ah ben là, voilà, dans la zone ouverte, on voit un héron. Donc le héron, c'est évidemment, il est beau, il est grand sur le bord de la rivière là. Donc le héron est lié à... Ah, il y a aussi une bergeronnette qui vient de s'envoler. Alors, commençons déjà par le héron. Le héron, donc, c'est un animal qui est tout de suite lié à l'eau, puisqu'il pêche. C'est un échassier. Il peut marcher dans la rivière et il va tout doucement. Et en fait, il fait de l'ombre avec son corps pour pouvoir voir à travers l'eau, pour ne pas être embêté par les reflets du soleil. Et il peut voir ainsi ses proies. Et tout d'un coup, il va avoir un mouvement très violent de la tête pour pêcher soit un poisson, soit des grenouilles. Il mange aussi des grenouilles, il mange des serpents aussi. Et celui-là, ouais, il est vraiment beau. On vous mettra une photo pour décrire la sortie. Il est vraiment très très beau. Et alors donc, oui, Virginie, tu nous parles de la bergeronnette ?
Oui, alors là, on avait une bergeronnette des ruisseaux. Donc, bergeronnette, c'est un petit passereau qui a une longue queue qui oscille de haut en bas. On l'appelle d'ailleurs wagtail en anglais. C'est vraiment un oiseau qui a cette queue, qui a un mouvement assez particulier qui la rend extrêmement reconnaissable. Elle, c'est la bergeronnette des ruisseaux parce qu'elle a le dos assez foncé et le ventre jaune. On peut aussi souvent voir la bergeronnette grise qui est noire et blanche. On voit souvent la bergeronnette au bord des cours d'eau parce que c'est là qu'elle trouve sa nourriture et c'est là aussi qu'elle niche. Elle trouve dans un mur ou sous un pont un trou qu'elle va remplir avec de la mousse et des feuilles pour se créer un petit nid douillet. Et c'est là où elle va pouvoir pondre entre 4 et 6 œufs et elle peut faire deux pontes, une en avril et une en août. Donc là, la rivière fait des méandres et nous, on s'éloigne un petit peu de l'eau pour rester sur le chemin. À côté du banc en béton, on peut voir un poteau avec un écriteau qui dit poste numéro 6, sur lequel il y a aussi le dessin d'un écureuil et un QR code. Ce QR code vous amène à une chasse au trésor, une espèce de parcours didactique autour des serres de Lully avec Tom et Berry comme mascotte. Vous pouvez voir toutes les informations sur tomberry.ch. Et si vous êtes donc curieux et que vous aimez la nature, vous pouvez résoudre des énigmes grâce à Tom et Berry et grâce à ce parcours à travers le territoire de Lully. Alors là, on sort gentiment du chemin boisé forestier. On voit au loin justement les serres de Lully. Et on voit que bah, forcément à cette période de l'année, les arbres ont de moins en moins de feuilles. Il reste évidemment les feuilles de lierre qui restent bien vertes et les feuilles des conifères, hein, parce que les aiguilles des sapins ou des épicéas ou comme ça sont bel et bien des feuilles modifiées. Mais en ce qui concerne les feuillus, donc le tilleul, le chêne, le charme et j'en passe, on voit qu'ils perdent leurs feuilles en hiver. On l'a déjà expliqué dans d'autres émissions, mais c'est parce que l'arbre essaye de se protéger du froid en gardant sa chaleur et en gardant un maximum de ressources. Donc il va sacrifier ses feuilles pour que la sève se concentre à l'intérieur de son tronc. C'est pour ça qu'on a des tapis de feuilles mortes par terre. Et ces feuilles mortes, c'est très important, il faut les laisser là où elles tombent. Parce qu'en fait, elles vont se décomposer et elles vont recharger en nutriments le sol. C'est ce qu'on appelle l'humus. Et c'est comme ça que les plantes, l'année prochaine, pourront pousser grâce aux nutriments qu'elles pourront prélever dans le sol. C'est grâce au fait de laisser les feuilles mortes sur place que le sol ne s'épuise pas.
Ah bah là, on a une merlette. Donc tout à l'heure, on avait le mâle du merle qui était noir avec le bec jaune. Et là, on a la femelle qui est plutôt toute brune et qui est plus terne et qui n'a pas du tout ce bec jaune. Rien, elle est juste au-dessus.
Oui, elle fait des allers-retours. D'ailleurs, elle a un mâle, un autre mâle à côté. Ils font des allers-retours des deux côtés du chemin, devant nous. C'est vraiment très sympa de les regarder comme ça, grignoter.
Alors, nous arrivons gentiment au milieu de cette émission d'aujourd'hui. Nous allons écouter aujourd'hui Citizen of the Planet de Alanis Morissette, qui est une chanson qui parle qu'on est tous sur la même planète et qu'on devrait apprendre à vivre ensemble et avoir un peu de compassion les uns envers les autres.
Radio Cité Genève.
some special seed. I sprinkle it with sensibility from French and Hungarian snow. I linger in the sprouting until my engines fall. Then I move across the sea to European bliss, to language of poets. As I cut the cord of home, I kiss my mother's mother, look to the horizon.
C'était Alanis Morissette avec Citizen of the Planet. Vous êtes de retour sur Genève Côté Nature, votre émission verte hebdomadaire. Aujourd'hui, dans Genève Côté Nature, nous vous présentons un côté vadrouille où nous sommes à Lully. Nous avons commencé sur le pont de Lully et nous avons suivi l'air vers le sud, donc à contre-courant, en regardant un petit peu à droite à gauche ce qu'on voyait et on a déjà vu passablement de passereaux.
Alors maintenant, nous allons faire demi-tour, on va revenir sur nos pas jusqu'au pont de Lully et on va repartir dans l'autre sens, donc vers le nord cette fois, dans le sens du courant.
On pourrait évidemment continuer tout droit le long de la promenade de l'air, mais vous verrez que de l'autre côté du pont, c'est aussi un endroit très sympa pour se balader. Nous vous rappelons que toutes ces vadrouilles sont disponibles sur notre site internet www.naries.ch. Il y a les podcasts des émissions que vous pouvez écouter sur le moment ou en amont de votre promenade. Et il y a aussi les cartes des vadrouilles qui sont disponibles sur la page des médias réguliers. Alors, nous sommes repassés sous le pont de Lully et nous sommes montés sur le promontoire à droite qui longe l'Aire, cette fois-ci dans le sens de son cours. Nous avons donc derrière nous la route qui mène au village de Lully. Alors, c'est un petit peu boueux ce chemin, surtout à cause de la météo en ce moment. On voit que c'est un chemin qui est emprunté par les cavaliers, puisqu'on a pas mal d'empreintes de chevaux. Et on va chercher un peu, voir si on vous déniche quelques autres empreintes. C'est vrai que quand vous avez un sol un peu mou comme ça, n'hésitez pas à prendre un moment pour chercher des empreintes. C'est toujours assez sympa. Donc on a les empreintes des ongulés, chevreuils, cerfs, sangliers, qui mettront en avant une empreinte en deux morceaux avec deux sabots. On a les empreintes des chevaux qui ont un seul sabot. Et on aura les empreintes des animaux à coussinets, comme les chiens, les chats, mais également les mustélidés qu'on voit souvent en forêt, donc blaireaux, fouines, martres, dans certaines régions.
Et les renards.
Les renards, on peut souvent les confondre avec des traces de chiens, mais en fait, entre les quatre orteils, il y a une croix qui peut être dessinée. Et si la croix est vraiment bien faite, c'est un renard. Si vous devez dévier de votre trajectoire pour faire la croix, c'est que c'est un chien. Alors, du haut de ce promontoire, on est en fait cerné par l'eau. On a l'air qui s'est divisé à droite et à gauche. Alors, à gauche, elle est un peu plus canalisée. Et à gauche du petit canal à gauche, on aura un autre chemin qui est moins boueux, si vous préférez emprunter celui-là.
Alors, aujourd'hui, on voit qu'il y a eu des coupes de bois. Donc, on a pas mal de tas de bois sur les côtés. Donc, les tas de bois, c'est comme ce que Virginia vous a dit tout à l'heure. Ça fait partie aussi de la matière de la forêt. Donc, là, peut-être qu'ils ont été élagués et que le bois sera récupéré. Mais c'est pas mal aussi de laisser des tas de bois en forêt pour que ça crée des refuges pour différents animaux, que ce soit des lézards, des serpents, des mustélidés et plein d'autres petits rongeurs. Donc là, on a pas mal de tas de bois. Et parmi les arbres qui ont été coupés, on a des arbres qui se reconnaissent très facilement, qui ont des petites feuilles nombreuses allongées. Ce sont des saules. Alors les saules, c'est un arbre qui est inféodé aussi au milieu aquatique. Ah tiens, de nouveau des merles. Et à droite, c'est quoi? Une petite maison de charbon. Donc reprenons, les saules font partie des arbres qu'on trouve sur les berges des rivières. Grâce à leur système racinaire, ils permettent de maintenir les berges en place pour éviter que l'eau fasse son travail d'érosion. Donc c'est toujours très très bien d'avoir dans les renaturations des plantations de saules dans les berges. Ça permet d'entretenir la renaturation et de rendre le cours de la rivière et puis tous les travaux pérennes. Et en plus c'est très joli et en plus c'est pratique parce que de nombreux animaux se nourrissent du saule, notamment notre fameux castor. Le saule est la nourriture préférée du castor qui va venir ronger ses branches et ronger les troncs. On remarque souvent la présence du castor grâce aux petits troncs taillés en forme de crayon.
On vous en a d'ailleurs parlé lors de notre précédente vadrouille au pont de Sierne.
Ah bah oui, puisqu'on en avait vu en live, exactement. Donc les saules, c'est vraiment la nourriture préférée du castor et ça permet de repérer sa présence si on ne le voit pas en direct.
Alors, au moment où dans le canal de gauche, vous avez une espèce de marche, vous pouvez descendre à droite, un petit chemin qui vous amène plus près de la rivière de l'Aire. En arrivant vers la rivière, on peut voir une petite zone de limon, donc de sédiments en dehors de l'eau, et on peut voir des petites traces dans cette boue.
Alors déjà, sur le bord de l'eau, la zone immergée, on a les fameuses traces du héron, qui doit aussi passer par là. On voit, ce sont des grands doigts, donc trois qui pointent vers l'avant et un qui pointe vers l'arrière, sans palme. Et on voit qu'il a tranquillement fait des petits pas en se baladant dans l'eau, en dehors de l'eau. Voilà, on le voit très très bien, c'est des traces qui sont très grandes par rapport à certains autres animaux.
Et là, on a autre chose, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, on a des traces de micro-mammifères qui sont vraiment trop mignonne. On voit vraiment les 1, 2, 3, 4, 5 doigts avec un bout pointu qui veut dire qu'il y a des griffes. Donc ça, ça peut être... On voit qu'il y a une trace au milieu, donc ça pourrait être le ventre ou la queue qui frôle le sol. Donc ça pourrait être un écureuil ou juste un rat surmulot.
On a aussi des traces un peu longilignes, mais irrégulières, qui vont dans tous les sens. Ça fait comme un petit creux, comme un petit tunnel à l'envers, en fait. Et ça, ce sont des insectes. Alors, il peut y avoir différents insectes qui font ça. En fait, la trace qu'on voit, c'est le ventre qui marque dans la boue, parce que là, c'est une zone qui est très, très meuble, qui est très humide. Et du coup, alors, des fois, on a des tunnels qui sont un petit peu bombés. Là, c'est un insecte qui est passé dessous. Mais en l'occurrence, ce qu'on voit ici, c'est plutôt des tunnels creusés depuis la surface. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a appuyé tout du long. Donc, ça peut être des chenilles, des vers, d'autres invertébrés. Ça peut être plein de choses.
Au niveau des traces d'insectes, c'est vrai que c'est assez marrant. Nous, quand on était en Afrique du Sud, on a fait notre diplôme donc, de tracks and signs, de guide de terrain et de reconnaissance d'indices de présence. Et dans notre examen final de tracks and signs, notre encadrant, notre enseignant, avait trouvé des traces de guêpes qui venaient en fait picorer, prélever un petit peu de boue du lit de la rivière pour fabriquer leur nid. C'est des paper wasps qui font donc des nids en papier solidifié avec de la boue. Et elles viennent prélever donc cette boue dans la rivière. Et c'est vraiment très intéressant à les voir. Et c'est des traces un peu rigolotes.
Ouais, compliquées à déterminer.
C'est vrai, compliquées à déterminer.
Alors, comme on vous l'a dit, l'air est souterraine sur certaines parties de son cours. Et alors là, c'est vrai qu'on ne connaît pas vraiment le but de ce petit canal qui est séparé du cours d'eau principal. Mais en tout cas, on a eu plusieurs petites marches qui forment des petites cascades. Et là, on continue à avancer. Le canal va s'arrêter. Et la pente va commencer à remonter et au final, ce canal-là continue à couler, mais de manière souterraine. Alors, nous arrivons gentiment au bout de cette émission. Alors, évidemment, cette balade, comme on l'a dit, on peut aller plus loin de l'autre côté et ici, on peut aller plus loin dans le sens de la rivière. La promenade de l'air est vraiment très, très longue et très jolie. Et grâce à elle, on se rapproche petit à petit de la ville. Donc, n'hésitez pas vraiment à prévoir une jolie promenade un jour de congé. Alors, le prochain rendez-vous de Nariès aura lieu ce jeudi. Nous organisons un cours de cosmétique dans notre arcade pour fabriquer des produits pour les cheveux. Au menu, un shampoing et un après-shampoing solide et un élixir beauté pour les longueurs. Il ne nous reste plus qu'une seule place, alors ne tardez pas pour vous inscrire.
Je vous rappelle que si vous êtes un groupe de minimum 6 personnes, vous pouvez nous demander un cours à la carte et nous nous déplacerons au jour qui vous convient pour vous apprendre à faire vos propres recettes.
Autre rendez-vous qui arrive, c'est le marché de Noël de Puplinge, dans lequel Nariès aura un stand. Il aura lieu le vendredi 17 décembre, donc la semaine prochaine, de 16h à 19h sur la place du village. Ce sera l'occasion d'acheter quelques cadeaux de Noël responsables et d'aider vos commerçants locaux.
Et finalement, nous aurons la sortie nature du mois de décembre, le dimanche 19 décembre, durant laquelle nous fabriquerons des décos pour le sapin en tissu recyclé, le tout au local de Nariès, à Schenbourg. Toutes les informations et inscriptions sont sur notre site internet www.nariès.ch.
La semaine prochaine, nous nous retrouverons pour un côté astuce. Et en attendant, nous vous souhaitons une fantastique semaine. À bientôt à tous. Au revoir.
Genève. Côté nature.